Chapitre 6. Distiller. Aller à l'essentiel. En 1969, la direction de Paramount Pictures cherchait désespérément un cinéaste pour un film dont ils avaient acquis les droits. Un drame criminel qui se passait dans le milieu de la mafia new-yorkaise. Les uns après les autres, tous les réalisateurs les plus en vue de l'époque avaient décliné la proposition, trop sensationnaliste à leur goût. Les films de gangsters étaient jugés convenus et clichés, et plusieurs de ce genre avaient récemment fait des flops. En désespoir de cause, les responsables de la Paramount contactèrent un jeune réalisateur. Encore relativement novice, il n'avait que quelques films produits par des studios indépendants à son actif et ne justifiait d'aucun succès commercial de grande ampleur. C'était également un outsider, travaillant depuis San Francisco plutôt que Hollywood, la capitale de l'industrie cinématographique, avant tout intéressé par l'expérimentation de nouvelles idées. Son nom ? Francis Ford Coppola. Le titre du film, vous l'aurez deviné, Le Parrain. Cependant, Coppola a lui aussi commencé par refuser le projet, jugé trop commercial et salace à son goût, selon un article du Hollywood Reporter. Cependant, son associé et protégé, George Lucas, celui-là même qui a réalisé Star Wars, lui ayant fait remarquer qu'ils étaient sans le sou et que sans une rentrée conséquente d'argent, ils ne tarderaient pas à être expulsés, Coppola a réfléchi. Finalement, le scénario qu'on lui avait présenté pouvait très bien être interprété comme une histoire qui serait une métaphore du capitalisme américain, le conte d'un roi et de ses trois fils. Comme vous le savez, Le Parrain allait devenir l'un des plus grands succès critiques et commerciaux de l'histoire du cinéma. En 2007, l'American Film Institute l'a désigné comme le deuxième meilleur film américain de tous les temps. Il a rapporté 245 millions de dollars, a remporté 3 Oscars et a donné naissance à une série de suites et de spin-off pour la plus grande joie de sa base de fans fervents, obsédé par l'histoire de la famille fictive des Corleone. La stratégie de Coppola pour réaliser ce film complexe aux multiples facettes a été de s'appuyer sur une Bible, une technique apprise lors de ses études de théâtre à l'université de Hofstra. Dans un court documentaire intitulé « Francis Coppola's Notebook » sorti en 2001, le metteur en scène explique sa manière de procéder. Il a commencé par lire entièrement le roman en notant tout ce qui le frappait. Je pense qu'il est important de noter ses impressions lors d'une première lecture parce qu'elles montrent ce que d'instinct vous avez trouvé bon ou mauvais et ce que vous n'avez pas compris. Il a ensuite ajouté ses interprétations, distillant et reconstituant sa propre version de l'histoire. Puis il a détaillé chaque scène en fonction de 5 critères clés, son résumé, son contexte historique, son imagerie et son ambiance, son intention principale et les pièges éventuels à éviter. Je me suis efforcé de distiller l'essence de chaque scène en une phrase, en expliquant son intérêt en quelques mots, a-t-il ainsi déclaré. Le tout était compilé dans un classeur à anneaux dont les pages étaient renforcées par des œillets pour éviter qu'elles se déchirent à l'usage. La version coppolienne de la boîte de Twyla Thorpe. Ces notes constituaient le point de départ d'un processus consistant à revisiter et à affiner ses sources pour en faire quelque chose de nouveau. Pour Coppola, son classeur était une sorte de feuille de route à plusieurs niveaux pour me permettre de réaliser le film et qui m'a permis de passer en revue non seulement le texte original de Mario Puzo, mais aussi toutes mes premières annotations sur ce qui était important pour moi ou sur ce que je sentais se passer réellement dans le livre. Parmi ces commentaires en marge du roman, on pouvait par exemple lire Hitchcock, comme rappel de la manière dont le célèbre réalisateur de thriller aurait cadré un plan, ou temps suspendu, pour indiquer une séquence au ralenti. Faire varier le style de ses annotations lui a également permis d'attirer l'attention de son futur moi sur les scènes cruciales du film. Plus j'annotais le livre, Plus j'utilisais des stylos différents, des règles et des gribouillis qui témoignaient de l'excitation que me procurait la lecture de tel ou tel passage, plus je comprenais à la relecture qu'il s'agissait d'une scène importante. Le classeur du parrain est le parfait exemple d'un procédé utilisé en coulisses par les créatifs les plus reconnus. Coppola considérait cette Bible comme l'élément le plus précieux pour la production de son film appelé à devenir un classique. Le script était devenu inutile. Je n'en avais pas besoin parce que je pouvais réaliser le film rien qu'à partir de mon classeur. On pourrait croire qu'un film jaillit directement de l'esprit d'un scénariste ou d'un metteur en scène, alors qu'en réalité, il repose sur la collecte et l'affinage de matériaux sources. L'histoire de Coppola montre ainsi que les lectures et les recherches permettent toujours de rassembler des éléments qui viennent enrichir le produit final en le rendant plus intéressant et marquant. Si Francis Ford Coppola se fiait tant à un processus par étapes pour prendre des notes, nous aussi, nous pouvons le faire. Et nous aussi, nous pouvons nous servir de nos notes pour extraire l'essence des histoires, des études, des exemples et des métaphores appelées à constituer notre matériau de base. Cette phase, la distillation, est la troisième étape de la méthode CODE. C'est là où l'on commence à transformer les idées que nous avons captées et organisées en notre propre message. La prise de notes quantique. Comment créer des notes pour un futur inconnu? Je vous ai montré comment noter des idées intéressantes issues du monde extérieur ou de vos propres pensées. Et vous avez peut-être commencé à les organiser en fonction de leur capacité à être exploitées et de leur pertinence par rapport à vos projets actuels. Maintenant, que faire? C'est là que nombre des plus appliqués s'arrêtent, incertains de la suite à donner à tous leurs efforts. Ils ont capté des informations intéressantes, sans pour autant que cela donne des résultats. Cependant, nos notes sont destinées à être utilisées, et non à être juste amassées. Lorsque vous prenez une note, il se peut que vous n'ayez que quelques secondes pour l'intégrer à votre second cerveau avant qu'une réunion, une tâche urgente ou les pleurs d'un enfant ne vous appellent ailleurs. C'est loin d'être suffisant pour comprendre pleinement ce qu'elle signifie ou comment elle pourrait être utilisée. Pour pouvoir transformer ce matériau brut en un capital de connaissances vraiment précieux, vous devrez l'affiner comme un chimiste qui distille une matière pour en extraire le composé le plus pur. C'est pourquoi il faut séparer la captation d'informations et son classement des étapes ultérieures. Autant vous devez être en mesure de sauvegarder une information rapidement, autant vous devez vous accorder du temps pour procéder à son affinage. En ce sens, la prise de notes est comme un voyage dans le temps. Vous ne faites rien d'autre que d'expédier à votre moi futur de l'information par paquet. Sans doute consommez-vous beaucoup de livres, d'articles, de vidéos ou de publications de médias sociaux riches d'enseignements, mais quelle est la probabilité que vous soyez en mesure de mettre en pratique sur l'instant l'information recueillie? Et quelle est celle que la vie dans toute son imprévisibilité, crise au travail, convocation à l'école de votre enfant, refroidissement qui vous met à plat, etc., vous laisse le temps de réfléchir à l'utilité de l'information tout juste captée? D'après mon expérience, la vie nous éloigne constamment de nos priorités. Plus nous sommes déterminés à nous concentrer et à réaliser quelque chose, plus elle a tendance à placer des urgences et des retards en travers de notre chemin. Par exemple, vous regardez une vidéo YouTube sur la rénovation de maison, mais vous ne pourrez mettre en pratique ce que vous y aurez appris que dans quelques mois, une fois que vous aurez déménagé. Ou vous lisez un article sur les différentes techniques de gestion du temps, mais ces connaissances vous serviront surtout à la fin de l'année, quand votre enfant sera né et que votre temps sera notablement plus compté. Ou bien encore, vous discutez avec un prospect de ses objectifs et des difficultés qu'il rencontre, mais ce n'est que l'année prochaine que vous pourrez faire usage de toute cette information, lorsque l'entreprise lancera son appel d'offres pour un nouveau contrat colossal. Ce genre de situation s'applique à la majeure partie de ce qui nous inspire. Une idée attire notre attention sur l'instant. Elle nous captive et nous obsède, et nous avons du mal à imaginer que l'on puisse l'oublier. Elle va changer notre vie à tout jamais. Mais après quelques heures, jours ou semaines, elle commence à s'effacer de notre mémoire. Bientôt, cette idée grandiose n'est plus que l'ombre d'elle-même dans notre souvenir. Pour éviter cela, vous devez faire en sorte que toutes les informations que vous captez survivent à leur voyage dans le futur. De cette manière, l'excitation et l'enthousiasme que ces nouvelles connaissances suscitent en vous ne feront que se renforcer au fil du temps, au lieu de s'affadir. La découvrabilité, le lien manquant pour rendre vos notes utiles. La clé pour que vos notes survivent à leur voyage dans l'avenir est qu'elles soient découvrables. Autrement dit, que vous puissiez tout de suite voir ce qu'elles contiennent et accéder aux points spécifiques qui vous sont utiles dans l'immédiat. La découvrabilité est un concept emprunté aux sciences de l'information. Elle fait référence au degré de facilité avec lequel un contenu ou une information peut être retrouvé lorsque l'on fait une recherche dans un fichier, une base de données ou n'importe quel autre système d'information. C'est ce concept qui guide les bibliothécaires quand ils décident de la manière dont ils vont disposer les livres sur une étagère. Les concepteurs de sites web au moment de définir les menus des sites que vous visitez quotidiennement, ou encore les plateformes de médias sociaux qui s'efforcent de rendre leur contenu aussi découvrable que possible. Le plus souvent, la découvrabilité est l'élément qui manque dans les notes que prennent les gens. Enregistrer des tonnes et des tonnes de contenu est facile, mais transformer cela en une forme accessible à l'avenir est une toute autre affaire. Pour ce faire, nous pouvons nous tourner vers une habitude simple, apprise à l'école, dont vous vous souvenez certainement. Le surlignage des points les plus importants. C'est une activité que tout le monde comprend, qui ne demande pratiquement aucun effort supplémentaire, et qui fonctionne dans toutes les applications que vous êtes susceptible d'utiliser. Voyez votre moi futur comme un consommateur exigeant. Celui-ci sera sûrement impatient et très occupé. Il n'aura pas le temps de relire des pages et des pages de texte, juste dans l'espoir de retrouver les pépites qui s'y cachent. C'est à vous de le convaincre que les notes que vous prenez à présent auront de la valeur à l'avenir. Votre futur moi n'aura peut-être même pas 5 minutes avant le début d'une réunion pour retrouver une référence enfouie dans une note. En ce sens, chaque note est un produit que vous créez au bénéfice de ce consommateur futur. S'il n'est pas convaincu, s'il se dit que cela ne sert à rien de se pencher à nouveau sur ses contenus, alors c'est toute la valeur de votre travail d'aujourd'hui qui sera perdue. Ceci met en évidence un paradoxe que nombre d'individus expérimentent. Plus on prend de notes, plus le volume d'informations augmente, plus tout passé en revue devient laborieux et chronophage, et plus l'on peine à retrouver une information. Les gens ont alors tendance à se décourager ou à vouloir changer d'outil pour finir par ne pas profiter de la plupart des avantages que procure l'accumulation progressive de connaissances. Que faites-vous lorsque vous souhaitez communiquer avec un individu très important, impatient et débordé? Vous distillez votre message en n'en retenant que les points essentiels et vous mettez en avant les actions à mener. Quand vous envoyez un email à votre manager, vous ne l'enrobez pas dans une masse de textes, vous listez d'emblée les questions importantes auxquelles il doit répondre. Ou quand vous faites une présentation à la direction de votre entreprise, vous ne monologuez pas durant des heures, vous laissez les détails de côté pour aller à l'essentiel. L'art de la distillation est au cœur de la communication efficace. Plus il importe que votre public entende votre message et agisse en conséquence, plus ce dernier devra être distillé. N'évoquez ces détails et ces subtilités qu'une fois votre auditoire à l'écoute. Et si votre moi futur comptait autant que tous ces VIP? Comment communiqueriez-vous avec lui de la manière la plus efficace et concise possible? Surlignage 2.0, la technique de la synthèse progressive. La synthèse progressive est la technique que j'enseigne pour faire ressortir les points essentiels d'une note. Elle consiste à organiser et à distiller le contenu brut de façon qu'il soit immédiatement utilisable pour un projet courant. Cette technique s'appuie sur un outil et une habitude que nous connaissons tous, le surlignage, tout en tirant profit des capacités propres à la technologie pour en décupler l'efficacité. En soi, c'est simple, vous faites ressortir les points principaux d'une note, puis vous surlignez les plus importants de cette sélection, etc. Cela permet de distiller le contenu par strates successives. Pour les distinguer les unes des autres, chacune de ces strates devra être formatée différemment. Les quatre strates de la synthèse progressive sont les suivantes. 1. Les notes brutes. 2. Les passages en caractère gras. 3. Les passages surlignés. 4. Le sommaire exécutif. Prenons un exemple avec un article scientifique. Mettons que j'ai trouvé le lien permettant d'accéder à cet article sur les médias sociaux. Je l'ai enregistré en deux clics dans mon application de lecture différée où je compile les signets de tout ce que je veux lire, regarder ou écouter. Quelques soirs plus tard, pour me détendre de ma journée, j'ai lu l'article et surligné les passages que je jugeais les plus intéressants. Comme mes applications de lecture différée et de prise de notes numériques sont synchronisées, tous les passages que je surligne sont automatiquement enregistrés dans mes notes avec un lien vers la source. Ce texte brut copié dans mes notes est ce que j'appelle la première strate. Je n'ai pas sauvegardé l'intégralité de l'article, mais seulement quelques passages clés. En ne gardant que les parties les plus importantes et les plus pertinentes, je me facilite la tâche pour les étapes suivantes d'organisation, de distillation et d'expression personnelle. Et si jamais j'ai besoin de revenir sur des détails, je n'ai qu'à cliquer sur le lien au bas de la note. Aussi intéressant que soit ce contenu, il n'est toujours pas assez succinct. Pris dans le flot d'activités d'une journée de travail ordinaire, j'aurais vraiment du mal à trouver le temps de chercher dans tous ces paragraphes les points à retenir. À moins de les souligner d'une manière qui permettra à mon futur moi de s'en saisir. Il est probable que je ne reviendrai jamais dessus. Pour rendre cette note encore plus accessible, je dois ajouter une deuxième strate de distillation. Généralement, je m'y emploie lorsque je fais une pause ou bien en soirée ou le week-end, quand je retombe sur la note alors que je travaille sur d'autres projets ou si je n'ai plus assez d'énergie pour des tâches qui en demandent beaucoup. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre ces principaux points en gras. Ce peut être des mots-clés qui me donnent des indices sur le contenu, des formules qui rendent compte de l'idée de l'auteur, ou des phrases qui résonnent en moi, même si je ne sais pas pourquoi. Arrivé à cette deuxième strate, le contenu de la note est devenu incommensurablement plus assimilable. Alors que lire l'article d'origine demande 5 à 10 minutes d'attention soutenue, passer en revue ces fragments en gras prend moins d'une minute. Mais ce n'est pas encore fini. Pour les notes particulièrement longues, intéressantes ou qui ont de la valeur, il vaut parfois la peine d'ajouter une troisième strate de condensation. Je vous conseille, pour cela, d'utiliser la fonction de surlignage fluorescent que propose la grande majorité des applications de prise de notes, similaire à ce que nous faisions à l'école. En l'absence d'une telle fonctionnalité, faites ressortir votre sélection en la soulignant d'un trait ou autre. Ne considérez que les fragments déjà en gras et concentrez-vous sur les points les plus intéressants et surprenants. Le plus souvent, cela ne concernera qu'une ou deux phrases qui représentent la substantifique moelle du contenu source. Ces quelques fragments qui sautent maintenant aux yeux vous permettent de saisir le message principal de l'article dans une forme distillée à l'extrême, qui ne prend que quelques secondes à assimiler. Quand je consulterai cette note à l'avenir, à l'occasion d'une recherche ou en examinant le contenu d'un dossier, je serai en mesure de déterminer en un clin d'œil si elle m'est ou non utile dans l'immédiat. Si la réponse est oui, je pourrai aussi lire les éléments de détail et de contexte qu'elle contient et même retourner à la source au besoin. Enfin, même si l'on en a rarement besoin, on peut ajouter une dernière strate. Pour les sources vraiment uniques et particulièrement précieuses, j'insère un sommaire exécutif en haut de la note, avec quelques puces résumant l'article dans mes propres mots. Le meilleur signe qu'une quatrième strate est nécessaire est lorsque je me retrouve à consulter une note à de multiples reprises, ce qui indique clairement qu'elle constitue l'une des pierres angulaires de ma réflexion. Se concentrer sur les points précédemment mis en gras et surlignés rend la rédaction du sommaire exécutif beaucoup plus aisée que si j'essayais de le faire à partir de l'article in extenso. Pour le garder succinct, je vous recommande d'utiliser des puces. Exprimez-vous avec vos propres mots. Définissez tous les termes inhabituels que vous employez. Et pensez à votre moi futur qui aura peut-être tout oublié du contenu source et sera dans l'obligation d'interpréter ce que vous avez écrit. Un sommaire exécutif me permet de me remémorer les principaux enseignements d'un article en une fraction du temps que cela me prendrait si je devais tout relire. Et comme j'ai moi-même rédigé les points à retenir, je peux sans peine les intégrer à n'importe lequel de mes documents de travail. Quand il s'agit de se rappeler une chose, la vitesse est essentielle. Votre temps et la quantité d'énergie dont vous disposez sont limités, donc plus vous pourrez parcourir vos notes rapidement, plus vous serez en mesure de connecter entre elles un grand nombre d'idées diverses et intéressantes.